Merci pour tout ce qu'on a déjà reçu ce matin, c'était super. Ça me conforte dans ce que j'ai apporté. Pendant cela, Déborah essaye de me faire une voix acceptable. Merci Déborah. C'est super. Je sais que j'ai la voix grave, et parfois au matin on me dit, mais t'étais pas encore réveillée. Si, si. Simplement, donc, merci, c'est joué. Ok. Je vais commencer par une petite question. Et la question est la suivante. Si vous étiez un fruit, vous seriez quel fruit ? Si vous seriez un fruit, qu'est-ce que vous choisiriez ? Un raisin. Tout le monde veut être un raisin ? Ah. On va arriver un peu là-dessus, mais je pense qu'il y en a qui ont d'autres envies. Une pastèque. Ah. Good choice. Bon choix. Une grenade. C'est tout. Un fruit de la passion, oui. Et je crois qu'en disant ces choses-là, prenez juste quelques minutes encore, je crois que Dieu est en train de dire quelque chose sur vos vies. La pastèque, c'est quelque chose qui rafraîchit, qui est tellement bon à manger quand c'est frais. Et c'est pour beaucoup. Il y a une grande quantité. La grenade, c'est vrai qu'on peut la découper, mais c'est aussi quelque chose de très juteux, qui nous parle des règles, de la loi, de qu'est-ce qu'on a au fond de nous. Le fruit de la passion qui nous parle de cette douceur, de cette force de la passion. Ouais, gardez ça en tête, peut-être pour plus tard. Donc on va prendre tout un temps sur un passage assez connu de Jean 15. Mais avant ça, quelque part, l'objectif est de ce message, comme ça le mettre tout de suite clairement en position, c'est de montrer que Dieu veut qu'on ait de la croissance. Dieu veut qu'on ait de la croissance, qu'on puisse grandir et porter du fruit, et du fruit en abondance. J'ai commencé dans ma petite recherche, j'ai trouvé peut-être des choses intéressantes, déjà pour moi-même. Par exemple, tout au début, dans Genèse, on a la création qui est mise en place, Genèse 1, et puis en Genèse 2, on a une autre partie, c'est quand Dieu détaille de manière un peu plus spécifique ce qui se passe avec l'homme. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage-là, il dit, voici au verset 4, « Origine du ciel et de la terre, quand ils furent créés, donc Genèse 2, 4, « Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et mit l'homme pour qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'espèces d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors c'est quand même bizarre, c'est qu'au début de ce petit chapitre, il dit, il n'y a eu aucune herbe, aucun arbuste. Alors que dans Genèse 1, on a quand même une création qui a eu lieu. Genèse 1, 11, que la terre se couvre de verdure, d'arbres, de semences, etc. Et il en fut ainsi. Et puis il y a une petite différence. En relisant le texte, je me dis, mais c'est un truc bizarre. Alors peut-être quelqu'un l'a déjà dit. Est-ce que vous avez vu la différence entre le premier et le deuxième verset ? Non. Ok. Aucun arbuste de la campagne. Aucun arbuste des champs. Quelle est la différence entre le premier et le deuxième ? Le premier, dans le premier verset, quand il y a la création de toute chose, c'est comme la jungle, entre guillemets. C'est très sauvage. Mais un deuxième trap, c'est dans un jardin. Ça suppose une culture. Donc avant que Dieu ne fasse l'homme, juste avant ça, il dit c'est super, j'ai créé tout ce que vous voulez comme fruit et comme arbre, mais il n'existe pas de jardin. Il n'existe pas de choses cultivées. Et il va créer ce jardin, juste pour l'homme. Peut-être ça ne vous fait rien, mais pour moi, j'ai dit, mais c'est incroyable. Alors ça veut dire que quelque part, le blé n'existait peut-être pas encore, vu qu'il n'y avait aucune plante supposée être des plantes de la campagne. Est-ce qu'il y avait du maïs? Est-ce qu'il y avait des tomates? Je reste avec la question, je n'ai pas forcément de réponse. Mais en tout cas, Dieu va créer. Et il va créer cet univers-là juste pour mettre l'homme. Comme si, pour qu'il y ait un jardin, il fallait qu'il y ait l'homme. Il y avait un mandat commun entre l'homme et le jardin. Et je crois que dans ce mandat commun, l'homme n'a pas été laissé seul, livré à lui-même. Parce que souvent on l'imagine, et peut-être je me le suis imaginé, quand Dieu crée toute chose, et puis il se dit, mais vas-y maintenant, mets-toi au travail. Et puis l'homme doit tout inventer. Il se débrouille tout seul. Et en réfléchissant à ce passage, je me dis, mais c'est pas comme ça que je vois les choses aujourd'hui, peut-être. Dieu a placé l'homme dans ce jardin. Et qu'est-ce qu'il a commencé sûrement à faire l'homme? Ben, il a dû découvrir. Ah tiens, des tomates, comment ça fonctionne? Comment est-ce que ça pousse? Comment ça grandit? Comment tu fais, Dieu, pour faire croître des tomates? Comment tu fais pour élever du maïs? Et je crois que pendant tout un temps, l'homme a été à l'école de Dieu. Il était là pour apprendre, pour être avec lui, pour marcher, pour découvrir, pour voir comment Dieu faisait. Et je pense que Dieu l'a amené au travail, dans un lieu d'apprentissage. Et là, on peut revenir à tout ce qui est éducation. Et il a continué. Et je pense qu'à un moment donné, il s'est un peu plus retiré en disant, tiens, c'est grand, vas-y maintenant, tu peux le faire. En tout cas, ce qui s'en parle dans le sens où Dieu ne nous laisse pas seuls. Quel que soit le jardin dans lequel il va nous planter, quels que soient les fruits qu'on va porter, Dieu ne nous laisse pas seuls. Et je crois que la démarche qu'il a fait avec Adam et Ève est toujours une démarche réelle aujourd'hui. Donc on va lire un autre passage sur lequel je me basais aujourd'hui, Jean 15, 1 à 17. Moi je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure en son amour. Je vous parle ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, on voit ici qu'on nous parle d'une... Je parlais d'ailleurs que l'objectif final, c'est de voir la croissance dans tous les domaines. Et là aussi, on nous a parlé d'une scène croissance, et Dieu dit clairement qu'il est glorifié s'il y a beaucoup de fruits. Alors, je dirais tout de suite, il ne me semble pas en tout cas qu'ici, on parle du fruit de Galates 5, qui est le fruit de l'esprit, parce que sinon on serait peut-être singulier et qu'on l'a appelé à porter beaucoup et pas un seul fruit. Je vais quand même, bien que ce n'était pas le propos, voir certaines choses qui sont dans ce passage. Par exemple, le commandement de Jésus. Jésus il raconte un commandement qui est « Aimez-vous les uns les autres. » Presque. Comme moi je vous ai aimé. Juste une petite question, je crois qu'on l'a déjà dit, mais j'aimerais quand même le rafraîchir. En quoi c'est un nouveau commandement ? Ok, je pose la question un peu différemment. Quel était l'ancien commandement ? Et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Le premier, et ce qu'on appelle le grand commandement pour beaucoup, c'est le fait d'aimer Dieu, et ça bouge pas. On est d'accord là-dessus. Et après, il y avait la relation, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On retrouve ça dans Lévitique 19, et c'est pas le propos de ce matin. Mais donc, c'était un commandement qui existait. Bien avant Jésus, on était appelé à aimer Dieu et aimer le prochain. Là où Jésus a amené une nouvelle chose, et en faisant cela, il se fait un peu l'égal de Dieu, parce qu'il a amené un commandement nouveau, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. » Donc, le niveau d'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres, ce n'est pas comme moi je le ressens, comme je m'aime moi-même, je peux aimer les autres, mais le niveau d'amour que je devrais avoir, c'est le sien. Donc, il a donné sa vie. Et ça veut dire qu'il met la barre très, très, très haut. Et parce qu'il a fait ça, il peut dire, voilà, maintenant j'élève ce qui était sous la loi à un certain niveau, et par la grâce, je l'emmène là-haut. Et il va insister sur... Vous avez vu qu'il parlera longuement là-dessus, sur ce nouveau commandement. Ce nouveau commandement, il en parle dans Jean 13, verset 34. Et voilà. Donc, il nous amène plus loin. Donc, si vous faites déjà vous aimez Dieu et vous aimez le prochain comme vous-même, c'est déjà pas mal. Il faudra arriver là. Et je ne vais pas trop parler là-dessus. Mais en tout cas, ça nous défie de rester là-dessus et de demeurer dans cet amour. C'est vraiment quelque chose d'important. Sinon, on ne va pas porter du fruit. Du coup, je suis allé voir, vu que c'était pas le sujet de ma prédication de ce matin, j'insiste pas trop là-dessus, mais je voulais vraiment parler de croissance et de voir comment Dieu voit la croissance. Est-ce qu'il y a des exemples de croissance dans le royaume de Dieu? Donc pour ça, je vais avoir trois paraboles qu'on va survoler rapidement. C'est celle du semeur, Matthieu 13. La parabole des talents, Matthieu 25. Et la parabole des mines en Luc 19. Et j'ai besoin d'un petit outil. On fait des maths, on fait des graphiques pour ceux qui sont perdus. Actuellement, quand on parle de croissance au niveau mondial, dans plein de domaines, on va parler d'une croissance qui équivaut à... On parle de 1,2, 3%, 5%, quand on arrive à 6%, on est très 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 content. Donc c'est une croissance qui est pratiquement linéaire, à un niveau très très bas. Alors pour la croissance des fruits, je reviens rapidement sur la parabole du semeur avant qu'on oublie. La parabole du semeur nous parle de quatre terres. On est d'accord avec ça? Ces quatre terres, le champ ne se présente pas comme ça, en quatre parties séparées. Les pierres, les ronces, le chemin et puis la bonne terre. Je veux dire, aucun cultivateur ne cultive un champ comme ça. Ou bien, vous en connaissez beaucoup, pas moi. On se rappelle que sur un champ, il y a la partie qui est le long du chemin, où on perd quelques grains. Il y a sûrement des ronces par-ci, par-là, et puis des pierres. Mais la grande partie du champ, c'est de la bonne terre. Donc la croissance est absolument incroyable et phénoménale. Parce que souvent, et même moi je le fais souvent cette erreur, j'espère que j'ai de la bonne terre. Ben oui, vous avez de la bonne terre. Vous avez souvent peut-être des ronces ou des cailloux dedans, et une partie un peu dure, mais je crois que votre cœur est une bonne terre. Bref, il est dit dans ce passage que quand on a un grain, on va en planter, ça va nous donner 30, 60 ou 100. Donc on va prendre pour 10 grains, on arrive à peu près ici. Pour 20 grains, on arriverait donc à 600, à peu près là. Pour 30 grains, 900. 40 grains, à peu près 1200. Bref, ça va nous donner une courbe qui est drôlement plus importante que la petite courbe verte qui est en bas. Je vais prendre un autre exemple. Pour 60, pour 10 grains, on en aura donc 600. Pour 20, à peu près 1200. Pour 30, à peu près 1800. Et on se retrouve avec une courbe encore plus pentue. Et je vais regarder sur Internet, la moyenne au niveau rendement, on parle de 50 grains. Quand on arrive dans le monde à 50 grains, donc à une courbe qui est comme ça, on considère que c'est du rendement élevé. Et puis Dieu va plus loin. Il dit, eh ben, j'en veux 1000. Non, c'est bien ça. Si, pour 10 grains, ça fait 100. Ben forcément, on se retrouve avec une courbe. Moi, je veux ça. 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 Et ça, c'est le rendement agricole aujourd'hui. Donc on voit que la croissance que Dieu peut voir pour nous est en dehors des limites de la normale. Autre petit dessin, parabole des talents. Donc, quelqu'un reçoit un talent, résultat, il n'en fait rien, il rend un talent. Croissance, zéro. Mais Dieu, j'ai toujours été avec toi, je t'ai aimé, j'ai chanté, tout ça. Croissance, zéro. Celui qui m'a reçu deux, il lui en rend combien? 4. Il y en a 2 qu'il a reçus, plus les 2 qu'il a produits, il arrive à 4. Quand celui qui en a reçu 5, 10. Alors imaginez ce que ça peut faire comme courbe de croissance. Ok. La parole des mines. Bon, je ne vais pas dessiner parce que ça va être, c'est pas forcément utile. Mais quelqu'un reçoit une mine, l'un va produire 0, un autre il va produire 1,5, donc on est plus loin que au niveau des talents, et l'autre il a une mine, bon, peu importe la valeur que ça a, il va en produire 10. Quelle est la conséquence de cette magnifique croissance? Il reçoit 10 villes. Moi, je ne sais pas si j'aurais voulu avoir 10 villes. Hein. Honnêtement, ça fait beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais dans tous ces passages, on peut voir que il y a de la croissance, peu importe. Et même pour celui qui a reçu qu'une, Dieu a dit, mais tu aurais pu le placer. Tu m'aurais amené une petite croissance, mais ridicule. Comme ça, j'aurais été content. Je reviens à mon passage de Jean 15. Jésus dit une chose, je suis le cep et vous êtes les sarments. Ça veut dire quoi exactement pour vous? Comment est-ce que vous voyez ça? Et comment est-ce qu'on peut être attaché au cep? Faut être greffé. On a la même nature. Quelque chose passe de lui en nous. C'est pas mal. Alors je fais des... C'est pareil, quand on fait des... Je suis terminé à faire des recherches, mais comment est-ce qu'on multiplie les pieds de vigne en France? Est-ce que vous êtes au courant? Moi, je suis tombé des nues. Comment est-ce qu'on fait des pieds de vigne en France? Comment le vignoble d'Alsace, que vous voyez derrière vous, a été produit aujourd'hui? Moi, je m'imaginais, comme toute chose, on plante un truc, on récolte, et puis ça refait des petites fleurs, et on récupère de nouveau des petites vignes. Coupons deux. Ah. Alors, il s'est passé une chose, en tout cas en Europe, c'est qu'il y a eu, dans les années 1800, une épidémie, ce qu'on appelait le phylloxéra. Et ça a détruit tous les plants de vigne. C'était terrible. Et on a emporté des pieds de vigne d'Amérique qui étaient résistants au phylloxéra. Très bien, mais c'était il y a 200 ans. Et aujourd'hui? Donc j'ai vu ça sur Internet et j'ai posé la question hier à un vigneron qui a bien confirmé ça. Parce que c'est juste inimaginable. Car Francis Beck... Aller faire une dégustation de vin, c'est vraiment très bon. Donc, vous prenez un petit pied de vigne d'Amérique, vous coupez tout ce qui est au-dessus, vous le fendez, oh, je fais une fente schématique. Hein. Oh là là! On va faire un pupitre transparent. Très bien. D'autres n'auraient pas osé le dire, donc c'est super. Donc on prend ce petit cep, et dessus, on va faire un petit greffon. C'est des petits trucs comme ça. En gros, je vais le mettre en V. Hein. On va l'accrocher. Ça va faire ça dedans. On va le bouturer avec différentes choses. On va l'accrocher, on va mettre de la cire de protection. Et on le plante en terre. Et ce petit truc-là, va pousser et va donner votre vigne. C'est vrai pour 99% des pieds de vigne qu'on a en France. C'est comme ça que ça se reproduit. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on s'amuse à faire ça? Parce que cette partie-là a la capacité de résister à des maladies. Et ça apporte la nature qui est la nôtre, mais qui a besoin de se garder pour pouvoir porter du bon fruit. Donc le chasselas va rester du chasselas, le chardonnay va rester du chardonnay, le pinot va rester du pinot. Mais pour pouvoir porter du fruit, et pas du fruit qui va tourner, et pas pour que le pied soit perdu, on garde quelque chose qui nous protège. Et ça a été pour moi une belle image de voir comment est-ce que Jésus fait avec nous. Il est ce cep qui nous protège, qui nous garde, qui enfante la vie, et nous, on se griffe dessus.
Et la vie peut couler en nous. Mais dans cette vie qui coule en nous, on reste avec notre identité. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour cette magnifique image. En France, c'est comme ça. On devrait plus que les autres comprendre ce que ça veut dire, d'être greffé sur Jésus. Continuons. Je vais enlever un peu mon désordre, puisque du coup... Donc, croissance, greffé. Dans ce passage de Jean 15, quel est l'acteur principal? Donc, on va prendre juste les versets qui parlent au début du cep et du serment. On va dire de 1 à 6, 7. Qui est l'acteur principal?
Plus fort?
Jésus? Ok? Je vous embête avec mes questions. Non. Le vigneron. Jésus est celui sur lequel on va être greffé, qui va porter du fruit. C'est lui qui va permettre qu'on porte du fruit. Et il est, sans aucun doute, absolument présent. Mais quand je parle d'acteur, c'est celui-là qui va bouger, qui va faire les choses. Qui est l'acteur? Le vigneron. C'est lui qui va permettre la greffe. C'est lui qui va faire ce travail-là. Est-ce que je m'auto-greffe? Non. Et si vous voyez qu'il y a des versets, moi, je ne vais pas tous réviser, mais Jésus qui va dire « Nul ne vient au Père que par moi », mais en même temps, il va dire qu'il a gardé ce qu'il a donné. Il y a un autre, je ne sais plus ce que le verset, mais il y en a un autre qui dit... Ok, ça va peut-être me revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a un travail où Dieu nous conduit à Jésus et Jésus nous conduit au Père. C'est dans cette relation où Dieu nous conduit à Jésus, c'est lui qui va nous planter, et à cause de cela, la nature du Père va nous être donnée. Alors le vigneron est présent pour la greffe. Après, à quel moment il est présent? Pour la taille. Et il est parlé d'ici, tout serment qui porte du fruit, quand il les retranche ou bien il les monte, c'est qui il? C'est bien sûr le vigneron, le Père. Donc le Père est complètement impliqué dans le fait qu'on porte du fruit. Rappelez-vous le jardin au début, Dieu avait amené l'homme dans le jardin, il a travaillé avec, et il voulait conduire l'homme vers quelque part. Là, je crois que de la même manière, Dieu est complètement impliqué dans notre croissance. Complètement. Parfois, on a l'impression que tout dépend de nous. Vous n'avez pas forcément cette impression? On doit faire ci, ça, 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 ça. Et on a une responsabilité. Mais là, en tout cas, de manière claire, Dieu dit, mais moi, je viens là. Et on verra qu'on a notre responsabilité. Donc on est supposé, du coup, j'ai perdu mes notes. Il garde, vous verrez dans plein de passages, je vous dis qu'il y a le gardien de la vigne. Mais une fois que la récolte est là, qu'est-ce qu'il fait, le vigneron? Il récolte. Et une fois qu'il a récolté, qu'est-ce qu'il fait? Il va presser. Il va assembler, il va le mettre en... Donc le travail de faire le vigneron est absolument incroyable. Et parfois, on a la prétention d'être nous responsables de tout. Je porte du fruit. Alléluia, j'ai de nombreux fruits. Non, on ne porte pas. C'est Dieu qui porte au travers de nous. Et Dieu veut préparer des bons fruits pour tout le monde. Je crois vraiment que cet acteur principal, c'est vraiment, vraiment, vraiment Dieu. Alors, vous avez quand même vu que, à plusieurs reprises, moi, dans tous ces versets, il y en a un qui m'a plus embêté que tous les autres. C'est le début du verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Or, certaines traductions disent plutôt tout sarment qui ne porte pas du fruit en moi. Parce qu'effectivement, votre tendance peut vouloir de porter du fruit par nos propres forces. Et Dieu dit, ok,
Si c'est ça, ça ne va pas. Il nous invite vraiment à porter du fruit en lui. Parce que sinon, il va même nous retrancher. Alors, est-ce qu'on a une part là-dedans? Ben oui. Un, c'est de rester accroché au cep. Et c'est en gardant les commandements, en gardant son amour, en gardant sa vérité, en gardant notre nature, qui nous sommes, et de continuer à laisser Dieu faire le travail. Et si vous avez remarqué dans la plupart des passages que j'ai pu voir tout à l'heure, comme par exemple la parabole des talents ou celle des mines, qu'est-ce qui se passe pour celui-là qui n'a rien porté du fruit, qui n'a rien donné? On reprend ce qu'il a. Et c'est terrible, hein, parce qu'il avait reçu quelque chose, mais que ce quelque chose, il n'en a rien fait. Et c'est là où on est responsable. C'est-à-dire que c'est pas nous qui décidons quel fruit on va porter, c'est pas nous qui nous greffons, mais à un moment donné, on peut comme faire de la résistance. Et dans cette idée-là, je crois que Dieu, il est moyen. À votre avis, quel pourrait être les raisons pour lesquelles quelque part Dieu est aussi radical quand rien ne se passe? Pourquoi quand il y a cette forme de stérilité, Dieu dit stop, stop, je suis pas d'accord avec ça? C'est comme si ça disait, tu m'as pas donné ce qu'il fallait pour la vie. C'est comme tu me disais, mais ce que je n'ai reçu n'est pas assez. C'est comme si quelqu'un disait, tu m'as donné tout ton amour, tu as donné ta vie pour moi, tu m'as donné des talents, et c'est toujours pas suffisant. Est-ce que tu es vraiment connecté au Père? Est-ce que tu es vraiment connecté à Jésus? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que non. Parce que cette stérilité s'appelle comme de la rébellion. On est loin de Dieu. On ne porte pas de fruits. C'est comme si on laissait les craintes et les peurs nous dominer, et pas son amour, comme on l'a chanté tout à l'heure. Alléluia. Et un autre passage pour finir. Ouais, j'ai encore un peu de temps. Un autre passage pour finir. Dans notre responsabilité de marcher avec Dieu, de garder ce que Dieu nous a donné. C'est un passage qu'on trouve dans Matthieu 9, au chapitre, au verset 14-17. C'est un passage où des hommes viennent voir Jésus et lui parlent un truc un peu bizarre. Et là, encore une fois, ça va nous renvoyer à notre responsabilité. On va quand même lire ce passage. Alors des disciples de Jean, 9-14, vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous, et les pharisiens, jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et en résulte une déchirure. Pire. On ne met pas non plus de vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vent se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Donc, le vigneron, outre le travail de préparation de la vigne, fait tout un travail de préparation de l'outre. Et là, la question qui a été posée aux disciples, c'était, au travers du jeûne, c'est quelle intimité peut-on avoir avec Dieu, avec l'époux? Parce que à quoi sert le jeûne? Je ne pense pas que ça nous pourra acheter une bonne conduite. Le jeûne est comme une recherche de l'intimité de Dieu, me semble-t-il. Ou bien? On est d'accord là-dessus? Donc dans cette question qui est posée à Jésus, c'est Qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi certains vont jeûner pour avoir cette intimité et d'autres pas? La réponse de Jésus va être la suivante. Mais actuellement, ils ont Dieu avec eux. L'époux est avec eux. Pourquoi ils chercheraient ailleurs ce qu'ils ont déjà là? Mais il viendra un temps où ils devront aussi jeûner. Pour l'instant, elle est là. Maintenant, écoutez bien. Jésus leur dit aussi, en parlant d'outre, vu qu'on est dans le domaine du vin, je mets de côté l'habit, mais on ne peut pas mettre ce vin nouveau que tu es en train de préparer dans de vieilles outres. Sinon, ça, et tout est perdu. Et c'est comme si Dieu, si je viens avec ma présence, avec toute ma présence, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir résister. Ça va vous casser. Et c'est parfois incroyable de penser que cette présence de Dieu qu'on cherche tellement, qu'on appelle de tout notre cœur, viens. Parfois Dieu se freine pour descendre avec nous avec puissance. Parce qu'il a peur que s'il fait ça, et s'il ne le fait pas, c'est qu'il a ses raisons, ça risque de nous détruire plus qu'autre chose. Et il attend jusqu'au moment où nous, on est prêts. Du coup, surtout avec cette responsabilité, qu'est-ce qu'on fait pour accueillir cette présence de Dieu? Cette présence passionnée où il n'y a plus de limites. Le vigneron prépare ça avec nous. Je ne crois pas qu'on est seul, nous sommes tous seuls à préparer les autres. Je crois que Dieu prépare ça avec nous, afin que le vin nouveau qu'il est en train de préparer soit gardé et puisse être répandu. Jésus. Donc, je n'ai pas de réponse pour toute faite pour tout le monde. Désolé. Mais notre responsabilité, c'est de là où on est, de marcher fidèlement avec Dieu. Tout à l'heure, dans ce verset qu'on a appris, maintenant, moi, Vito, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car toutes ses œuvres sont vraies. Et ses voies sont justes. Et je crois qu'on apprend à marcher dans des voies qui sont justes et des œuvres qui sont vraies. J'aimerais juste prier maintenant par rapport à une croissance dans toute nos vies. Et j'aimerais juste finir là-dessus. Celui qui en avait reçu deux au départ, pour ceux qui veulent suivre le cours avec Père Kranka, on fera la différence entre ce qu'on appelle l'égalité et l'équité, a réussi à en produire quatre. Et ça correspond peut-être à ce qu'il pouvait lui porter. C'était suffisamment lourd pour ses épaules. Celui-là qui en avait 5 au départ, il est arrivé à 10. Et c'est ce que peut-être lui peut porter. Personnellement, quand je vois la vie de certains, je ne sais pas, qui sont tellement remplis, je prends Luc et Manu, quand je les vois comme des super balles partout en France et dans le monde, je dis, mais est-ce que moi je peux porter ça? Est-ce que j'aurai la capacité de porter ce qu'ils portent? Ben, ma réponse est non. Enfin, niet. Même pas en rêve. Je crois que je porte pas mal, mais j'ai pas ce niveau de capacité que Dieu leur a donné. Et celui-là qui est là, hop, Dieu dit, maintenant, tu as le droit à un truc en plus. Et donc la mauvaise nouvelle, c'est que plus tu es capable de porter, plus tu vas porter. C'est ce que Dieu dit. À celui-là qui a, on en donnera encore plus. Donc plus tu portes, plus il y a de la croissance, plus tu vas porter. Mais je crois que dans tout dans ce que tu vas porter davantage, Dieu est avec toi. Il est hors de question que Dieu te laisse tout seul. Je crois que Dieu est un magnifique vigneron qui prépare des cuvées extraordinaires pour ce siècle. Et on fait partie de cela. Et on va tous porter du fruit en abondance. Alors, pour finir ce temps-là, parce qu'il est déjà 20, j'ai déjà dépassé mon temps, j'aimerais juste qu'on puisse prier. Souvent on va faire des appels dans plein de domaines et je ne voudrais pas faire des appels comme ça ce matin. J'aimerais juste que les personnes, il y a déjà un message qui a été porté sur les sept montagnes ici, peut-être qu'on y reviendra une autre fois. Je m'appellerai appeler ces sept groupes de personnes, là où elles sont. On va juste vous lever à chaque fois, tour de rôle, et on va juste prier la bénédiction à la croissance dans ces sept montagnes. Par exemple, une des montagnes ou un des domaines de la société, c'est l'éducation. Alors, tous ceux qui sont dans l'éducation, pourriez-vous vous lever? Alléluia. Ok. Papa, on avait appelé la croissance dans tous ces domaines, dans leur vie. Ceux qui sont dans l'éducation, ceux qui travaillent auprès des enfants, des plus grands, ceux qui travaillent à éduquer, à emmener plus haut, ceux qui travaillent à construire ton image dans la vie de chacun, à révéler les richesses du royaume, je prie de leur donner de la croissance. Que leurs œuvres justes se multiplient. Que leurs épaules, sur leur vie, il y a ce joug doux et léger. Donne-leur des paroles de vie. Donne-leur des paroles de vie. Et j'appelle les fruits nombreux à être manifestés dans vos vies dans le nom de Jésus. J'appelle une croissance incroyable, spirituellement incroyable, dans le nom de Jésus. Et papa, tu as dit que leur fruit va demeurer. Je prie que ces fruits, c'est des fruits d'éternité et qu'ils demeurent dans l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais appeler à se lever maintenant tous ceux qui travaillent dans le domaine des finances et du commerce. Et il y en a parmi nous. Alors, je sais que notre ami Werner avec l'agriculture est parti. Denis, tu as travaillé, tu continues. Tu peux te lever aussi. Pardon ? Isabelle non plus. Il n'y a que deux, trois qui travaillent dans le commerce. Katia, s'il te plaît. Non, avec ton époux, il y a des choses que tu portes. Ok ? Merci. Ok. C'est bien. Alléluia. S'il y en a d'autres, des anciens qui veulent venir prier avec moi, je suis complètement d'accord. Hein? Après, là, on est vraiment dans le travail. Papa, je priais pour tous ceux qui travaillent dans le monde des finances, du commerce. Que là où ils soient comme des lumières. Que là où ils soient comme ce rejeton de la souche de Jesse qui va porter du fruit. Seigneur, merci parce que tu les greffes sur le vrai cep et que là où ils sont, dans les finances, ils vont porter du fruit et du fruit en abondance. Que on appelle la libéralité au travers d'eux. On l'appelle un élargissement. On l'appelle des solutions dans le monde des finances et dans le monde économique. Papa, on prie d'élargir leurs épaules et en même temps de les libérer de tout joug inique. On pose sur leur vie ton joug qui est doux et léger. Et on appelle la croissance et en même temps la sécurité. Seigneur, merci parce que tu es le bon vigneron et que dans ce domaine-là, tu ne te trompes pas. Tu les conduis avec vérité et justice. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans la politique chez nous? Personne dans la politique. Dans le gouvernement. Jésus. Ok, on va bénir ceux qui travaillent dans la politique et dans le gouvernement. Amen. Papa, on l'appelle des gouverneurs sur ton cœur. Tu as placé Daniel à côté d'un roi pour qu'il puisse parler tes oracles, révéler qui tu es. Et Seigneur, tu as été un artisan de ce fait que Nebuchadnezzar a pu aussi ouvrir les yeux, voir. Papa, j'appelle pour des Daniel dans le monde politique, des Daniel qui marchent à côté des rois, qui n'ont pas craint de se souiller parce que leur cœur est pur, et qui amène cette pureté sans compromis dans le monde politique, qui amène cette pureté qui est remplie d'amour dans le monde politique. Papa, on l'appelle la croissance dans le monde politique, la croissance de ta vie, la croissance de ton amour, la croissance de tes préceptes. Et que là où on s'est trompé, papa, on te demande simplement de venir, ouais, de nous faire grâce en tant que nation pour nous emmener dans ton royaume. Que le gouvernement de France découvre les voies de ton royaume, parce que tes voies sont toutes justes. Amen. Alléluia. Le domaine des arts. qu'il y en a qui sont dans le domaine des arts. Alléluia. De loin ou de près, il y en a d'autres qui ont à cœur les arts. Levez-vous. D'une manière ou d'une autre. Alors ça va être les arts graphiques, les arts plastiques, les arts... peu importe. Je pense que les arts sont un outil incroyable dans les mains de Dieu. Encore hier, on a été visiter avec John le retable d'Issenheim. C'est juste incroyable. Vous êtes saisis parfois parce que les hommes peuvent exprimer au travers des arts. Alléluia. Papa, on appelle ta créativité à être manifestée avec puissance au travers de tous ceux qui portent les arts dans leur cœur, dans leur âme, dans leur pensée. Que ta vie fasse germer plus de créativité. Une créativité qui te révèle, qui montre qui tu es. Que là où ils vont marcher, ils vont simplement ouvrir des portes dans le ciel. Qu'au travers de leurs œuvres d'art, c'est comme des fenêtres et des portes ouvertes dans le ciel. Au travers des dessins, au travers des poèmes, au travers de la danse, que ce soient des portes ouvertes dans le ciel. Seigneur, je bénis chacune de ces personnes qui travaillent dans ce domaine artistique. Je prie de garder la pureté dans leur cœur et qu'ils soient des porteurs de lumière. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il en reste encore deux, trois. Merci pour votre patience. Normalement, on a dû couvrir pratiquement tout le monde. Ceux qui travaillent au niveau des médias, journalistes. Tu peux te lever pour Marie ? On a une jeune fille qui est à Paris, qui fait des études de journalisme. C'est pas que c'est... Elle voit la main de Dieu, mais c'est... elle sait que c'est son appel. Elle est confrontée à des choses auxquelles nous n'est pas confrontés. Alors ceux qui travaillent au niveau des médias, peu importe. Jésus. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui veulent parler. Tu as créé la parole, tu as créé la lumière, tu as créé le verbe pour qu'on puisse communiquer les uns avec les autres. Et je prie que ces communications se fassent sur ton amour, sur le fondement de ton amour, sur le fondement de ta pureté, sur le fondement de ta grâce. Je prie pour chacune des vies qui est là et ceux que, comme Marguerite qui représente Marie, je prie que cette vie vienne leur donner le courage de résister. Comme un cèpe qui tient ferme malgré les parasites qui veulent attaquer. C'est-à-dire que tu es le vrai cèpe et tu gardes leur vie en toi. Tu gardes leur vie en toi afin qu'ils puissent porter du bon fruit. Je veux libérer cette croissance dans leur vie et j'appelle les fruits nombreux dans le domaine des médias. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le domaine de la religion. Ceux qui travaillent dans la religion. Seigneur, bénis-nous. Alléluia. Seigneur, bénis-nous. Les uns les autres. Hein, que ce soit au travers du sozo ou de peu importe. Papa, viens. Viens nous bénir. Viens nous rendre forts en toi. Que chacune de nos vies soit tellement bénie qu'elle déborde, elle déborde et elle porte du fruit. Que quand on parle de toi dans les cours alpha, dans le sozo, que ce soit ici ou dans la rue, que dans les témoignages, ta puissance et ta grâce soient manifestées. Et on appelle vraiment ta croissance dans ce domaine-là aussi. Jésus. Merci pour la maison de prière. Merci de donner la croissance à la maison de prière. Alors, il y a qui veulent se lever à cause de la maison de prière. Allez, levez-vous. C'est vrai que on est tous totalement compris là-dedans, que je ne vous ai pas demandé, mais au moins... Ouais, papa, merci pour tous ceux qui sont dans ce domaine où on appelle ta vie en permanence à être révélée. Tu les bénis, tu leur donnes la croissance, tu leur gardes et tu leur donnes une nouvelle créativité pour de nouveaux outils dans le nom de Jésus. Amen. Et on va finir par tous ceux qui travaillent dans le domaine familial et social. Et la famille, c'est quelque chose que l'on porte. Alors, on est tous partis d'une famille, de toute manière. Alors, on va tous se lever. On va finir par cette prière-là. La santé, je vais le laisser dans le domaine social, familial. Alors, il y a la santé. On va tous se lever, parce qu'on fait tous partie d'une famille, d'une manière ou d'une autre. Alors, Alors c'était difficile de faire des sous-catégories. Si vous n'êtes pas retrouvé, parce que vous êtes artisan, et vous n'êtes pas retrouvé là-dedans, on va dire que vous êtes parmi le commerce. Si vous êtes dans des étudiants, vous êtes en devenir dans un des domaines. Et à un moment donné, où tu vas te retrouver. Et je crois que cette croissance-là va être manifestée en toi. Papa, on veut appeler simplement ta croissance dans ta famille, l'Église. On va commencer par là. Nous sommes une famille. On appelle ta croissance dans cette famille qu'est l'Église. Tu l'as dit que nous étions une famille qui était là pour te glorifier, pour exalter ta présence et pour incarner ta vie. Papa, on veut être une famille qui porte énormément de fruits. Viens, papa, viens nous élargir, viens nous consolider, viens nous greffer encore davantage. Et que notre fruit demeure pour des siècles. Et papa, je prie pour chacune des familles qui sont là, que ce soient des familles bénies en toi. Bénies en toi. Qu'elles marchent dans tes voies avec grâce et passion. Et je prie pour de la croissance dans chacune des familles. De la croissance spirituelle, de la croissance dans les bonnes relations. Merci parce que tu connectes les uns aux autres, entre les générations, et que tu fais de chacun d'eux des porteurs de ton image. Et je bénis les familles et je prie pour toutes celles qui se passent par des temps de souffrance aujourd'hui. Venir vraiment encore de les garder encore davantage. Qu'elles soient entourées de toute ton affection, papa. Dans le nom de Jésus. Amen.